Le journal, Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour. Alerte sur les médicaments, la situation est préoccupante. En France, certains médicaments manquent dans les pharmacies. Pour les corticoïdes, ça s'améliore, mais les difficultés d'approvisionnement concernent de plus en plus de molécules. Explication de notre spécialiste santé, Véronique Julia. La fin des soldes, c'est aujourd'hui. Un bilan pas mauvais pour les commerçants, après le manque à gagner dû aux manifestations des Gilets jaunes. Le Mexique ouvre une enquête pour terrorisme après la tuerie d'El Paso. Au Texas, 8 Mexicains figurent parmi les victimes. Mexico espère pouvoir demander l'extradition du tireur. Au Cachemire, après la décision surprise de New Delhi de mettre fin à l'autonomie du territoire, on craint des débordements dans la région. Les touristes ont dû plier bagages précipitamment, vous les entendrez. En Ariège, les éleveurs de brebis ne veulent plus des ours. Après un nombre record de brebis tuées cette année, ils manifestent ce matin devant la préfecture de Toulouse. Témoignage d'un éleveur désespéré dans ce journal. Et puis à 8h20, Pierre Veille, on parle de justice des mineurs avec vos invités.
Oui, ce sera un des grands dossiers de la rentrée politique, la réforme de la justice des mineurs, avec deux invités sur France Inter ce matin à 8h20. Axel Vinassac, elle a réalisé un documentaire sur une adolescente qui a échappé au placement en marchant pendant 3 mois. Avec nous aussi Jean-Pierre Rosenzweig, qui est ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Vos questions pour nos invités vers 8h35 au 01 45 24 7000. Le standard est déjà en service. Et puis bien sûr, vos courriels sur franceinter.fr.
France Inter. Si vous avez un traitement à base de corticoïdes, vous l'avez forcément remarqué, les médicaments manquent depuis maintenant plusieurs mois dans les pharmacies. La situation s'améliore progressivement, mais il est trop tôt pour parler de retour à la normale. Et au-delà des corticoïdes, l'agence du médicament doit de plus en plus jongler avec des difficultés d'approvisionnement pour tout un tas de molécules. Les explications de Véronique Julia.
Vaccins, corticoïdes, antibiotiques, médicaments contre Parkinson. En 2008, moins d'une cinquantaine de médicaments étaient signalés en rupture de stock ou en tension. Le chiffre est monté à plus de 400 en 2016, plus de 500 en 2017 et on a dépassé les 800 en 2018. Ça ne veut pas dire que les patients sont restés sans rien. À chaque fois qu'un signalement est fait, l'agence du médicament cherche des solutions. Elle utilise des médicaments de substitution, elle importe la molécule depuis d'autres pays. Elle contingente aussi parfois en réservant les stocks pour les patients les plus sévères. Les anti-infectieux, les médicaments du système nerveux et les anticancéreux sont les trois classes de médicaments les plus sujettes aux ruptures. Des ruptures aux causes multiples, la demande mondiale de médicaments qui augmente sans que les capacités de production suivent le rythme, les prix proposés en France par l'assurance maladie qui sont relativement bas, ce qui peut encourager certains répartiteurs à vendre plus cher dans des pays plus offrants. Enfin, la production est souvent délocalisée dans des pays qui travaillent à flux tendu. Il suffit d'un problème dans la chaîne pour paralyser la production. En septembre, le ministère de la Santé réunira les acteurs de la filière pour chercher des solutions.
Et pour tout savoir sur ces ruptures de stock de médicaments, rendez-vous sur notre site internet franceinter.fr. Santé toujours, alerte au plomb autour de Notre-Dame. Plus de 3 mois après l'incendie de la cathédrale, un collectif d'associations et de syndicats dénonce un manque de communication et réclame un confinement du chantier de rénovation actuellement interrompu. Durant l'incendie, ce sont près de 400 tonnes de plomb qui se sont répandues en poussière dans les environs. L'agence régionale de santé, la préfecture de police vont publier aujourd'hui de nouveaux résultats des relevés sur la zone. Alors quels sont réellement les risques pour la santé des ouvriers et des riverains? Réponse du docteur Madi de Nantes, responsable de la mission Saturnisme à Médecins du Monde.
Le plomb, c'est un poison, c'est un toxique puissant qui, quand il est absorbé, va se stocker dans l'os où il va rester pendant très longtemps. Donc c'est une intoxication qui, en plus, chez les jeunes femmes ou chez les petites filles, va concerner une future génération, puisque quand elles seront enceintes, elles relargueront le plomb dans le sang et une génération qui n'existe pas encore sera intoxiquée par ce plomb. Le danger, déjà en premier pour les ouvriers, ils ont sans doute inhalé beaucoup de plomb et ils doivent être surveillés. C'est quoi cette surveillance? C'est en tout premier, bien sûr, le dosage du plomb dans le sang. On appelle ça la plombémie. Pour les gens qui habitent autour, on doit savoir jusqu'où le plomb est allé et il doit y avoir une surveillance au moins des enfants et des femmes susceptibles un jour d'être enceintes. C'est-à-dire, on doit savoir est-ce que il y a eu du plomb dans le sang, plomb qui, dans un deuxième temps, sera stocké dans l'os.
Et les travaux de dépollution du parvis de la cathédrale Notre-Dame doivent commencer demain. Les 6 semaines de solde d'été se terminent aujourd'hui. C'est la dernière fois qu'elles durent aussi longtemps. L'année prochaine, elles seront raccourcies à 4 semaines. Alors après le mouvement des gilets jaunes qui a coûté cher en chiffre d'affaires, les commerçants attendaient beaucoup de ces soldes et malgré la canicule, le bilan s'annonce plutôt bon. Manuel Ruffez.
Évidemment, il y a eu un effet canicule indéniable, mais finalement, comparé à un premier semestre qualifié de destructeur d'activité et d'emploi, comparé aussi à la même période l'an passé avec la Coupe du Monde de football, eh bien le bilan n'est pas si mauvais. C'est le constat de Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France.
Ce sont des soldes qui ont été au minimum égales à l'année dernière, voire entre +3 et +10% selon les cas. Les pourcentages d'augmentation sont les plus forts dans, par exemple, les galeries marchandes, qui étaient climatisées. Les clients sont allés plus facilement dans ces endroits.
Les soldes restent une période importante, même si, comme le déplore Eric Mertz, le président de la Fédération nationale de l'habillement, on trouve aujourd'hui des prix cassés toute l'année. La clientèle y est attachée malgré tout.
Le bilan est majoritairement positif, avec une fréquentation et un panier moyen en hausse, respectivement de 1,5 et 6%. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours confronté aux conséquences économiques du mouvement des gilets jaunes, auquel se surajoute aussi un phénomène de déconsommation choisie qui est de plus en plus marqué.
Des soldes qui passent l'année prochaine de 6 à 4 semaines. Ça permettra sans doute d'être plus efficace, espèrent les commerçants.
Et puis c'est un commerce illégal celui-là, mais qui ne se gêne pas pour s'afficher. Au pied de la cité Jean Jaurès, à Marseille, dans le 14e arrondissement, un panneau annonce les prix et les horaires de vente du cannabis. Reportage édifiant de Tony Celiez de France Bleu Provence.
Une écriture manuscrite, noir sur blanc, le panneau trône visiblement presque toutes les nuits, parfois même le jour, près d'un feu tricolore au pied de la cité Jean Jaurès et de l'autoroute à la sortie de Marseille. Et ce riverain, qui se fait appeler Léonidas, préfère en rire.
Ah bah tout le monde la voit, c'est de la pub, hein. C'est pas une 4 sur 3 mais presque. Hein. C'est de la publicité, voilà. Vous savez c'est assez sensible quand même, le quartier c'est sensible, moi je m'occupe pas de ça, ils font leur vie, je fais ma vie.
Sur le panneau, des tarifs de 10 à 80 euros pour différentes sortes de cannabis. Dans un jardin au pied de la cité, Gabriel, cette situation ne la surprend même plus.
Et demain on peut avoir un tract dans la boîte aux lettres, vous voulez être livré? Je sais pas moi. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de crainte. C'est à l'aise pour mettre ça, on est à l'aise quoi. C'est la jungle. Enfin, les vannes sont lâchées, il n'y a plus de contrôle. Qu'on se permette de faire ça, c'est qu'on est sûr qu'on ne va pas être inquiété.
Alors pendant que les guetteurs veillent, un homme accepte lui aussi de se confier. Mais il insiste seulement de façon anonyme et caché derrière un mur. Il n'habite plus ce quartier depuis peu.
Il n'y a plus rien qui m'étonne. Tout le monde le connaît. Et personne ne dit rien et c'est comme ça. Et moi je pense que c'est insurmontable. C'est fini. C'est insoluble ce problème.
Un reportage signé Tony Celiez de France Bleu Provence. Un violent incendie cette nuit à Morzine, en Haute-Savoie, rapporte France Bleu Pays de Savoie. 3 bâtiments ont brûlé, dont un restaurant et 2 habitations. Une 40aine de personnes ont été évacuées. Il n'y a pas de blessés.
Il est 8h09. Le journal Corinne Audouin. Corinne, c'est une première pour un acte commis aux États-Unis. Le Mexique ouvre une enquête pour terrorisme après la tuerie d'El Paso.
Oui, parmi les 22 personnes tuées samedi dans cette ville du Texas, ville frontalière avec le Mexique, 8 sont des citoyens mexicains. Le tireur, un homme de 21 ans, avait publié un manifeste justifiant son acte en raison de l'invasion hispanique au Texas. Correspondance à Mexico d'Emmanuel Stills.
Le Mexique entreprend sa propre quête de justice après la tuerie d'El Paso, un crime raciste qui a ôté la vie à plusieurs de ses ressortissants. Depuis la ville frontalière américaine, lundi, le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a évoqué les actions judiciaires menées au Mexique.
C'est un acte de terrorisme, c'est pourquoi nos autorités judiciaires ont ouvert une enquête et cela pourrait déboucher sur une demande d'extradition si le procureur le juge opportun.
La pétition, la sollicitude d'extradition.
Le racisme et le suprémacisme blanc constituent un sérieux problème aux États-Unis, a aussi affirmé Ebrard. Le chef de la diplomatie mexicaine a confirmé une deuxième enquête portant sur la vente de l'arme utilisée lors du massacre. Dans le même ordre d'idées, le président Andrés Manuel López Obrador a critiqué l'immobilisme des 2 grands partis américains sur ce thème.
Llevar a la réflexion, à l'analyse Ils doivent réfléchir et parvenir à une décision pour contrôler la vente d'armes, qui ne répond pas à des critères stricts. Cela affecte les citoyens américains, mais cela nous concerne, nous aussi.
Le gouvernement de López Obrador tente de démontrer que les politiques américaines sur les armes ont un impact meurtrier pour les Mexicains. Le trafic d'armes en provenance des États-Unis est devenu un thème incontournable du dialogue bilatéral. Mexico, Emmanuel Stills, France Inter.
Allez, direction maintenant le Cachemire. C'était un territoire autonome depuis 1947, mais l'Inde a mis fin hier à ce statut spécial, à la surprise générale. Une décision qui risque de provoquer une flambée de violence dans la région. Et ces derniers jours, l'Inde avait évacué les touristes, officiellement en raison de menaces terroristes, semant le chaos à Srinagar, l'une des principales villes du Cachemire. Juliette G.
Des milliers de touristes se sont précipités à l'aéroport de Srinagar, mais aussi des centaines de milliers d'hindous qui ont vu leur pèlerinage au Cachemire annulé. Nathan Dixit, employé d'une agence de voyage, y était il y a 3 jours.
C'est la saison des pèlerinages à Srinagar, donc beaucoup de touristes étaient dans la ville. Mais l'avion est quasiment le seul moyen de quitter cette zone. Donc quand le gouvernement a demandé aux touristes de partir, c'était le rush à l'aéroport.
La situation s'est encore empirée avant-hier soir avec la mise en place d'un couvre-feu. Imani Malhotra faisait un trek en zone rurale.
Quand le couvre-feu a été mis en place, la connexion Internet a été coupée, donc on ne pouvait pas imprimer le billet d'avion qu'on venait d'acheter. Et il n'y avait plus de taxi dehors. Quand on est arrivé à Srinagar, tout le monde était confus. On demandait aux touristes de partir et aux magasins de fermer.
Pourtant, elle raconte qu'elle n'a vu aucun heurt avec la police avant de quitter le territoire hier matin. Les autorités indiennes ont agi en amont, en essayant d'enrayer toute possibilité de révolte, bien consciente que ce changement unilatéral de statut du Cachemire raviverait les tensions avec le Pakistan.
Au Maroc, un procès emblématique, celui d'un viol collectif, doit s'ouvrir aujourd'hui à Beni Mellal, dans le centre du pays. Il y a un an, Khadija, 17 ans, était séquestrée et violée par 12 hommes pendant 2 mois. Nadine Epstein.
En raison de ce procès, un an après les faits, Khadija ne peut pas se détatouer. Les marques graveleuses et les traces de brûlures corporelles sur la jeune fille prouvent son calvaire. Le juge pourra mesurer de visu l'ampleur des tortures infligées par les hommes assis aujourd'hui dans le box des accusés. Ce viol, filmé et diffusé sur des réseaux sociaux, la plainte déposée, la libération de la parole de la victime, encourage la population à réclamer des lois contre les agresseurs. Viol et impunité font encore bon ménage. Le nombre de viols ne cesse de grimper. Selon la police, des milliers d'affaires sont en cours, mais 90% des Marocaines abusées ne dénoncent pas leurs violeurs. En 2012, après le suicide d'une adolescente, les autorités avaient supprimé l'article du code pénal qui permettait à un violeur d'échapper à la prison en épousant sa victime. En ce moment, le gouvernement a surtravaillé sur des lois contre les violences faites aux femmes sans davantage de précision. Aujourd'hui, les inculpés qui comparaissent risquent jusqu'à 30 ans de réclusion.
8h13, retour en France, en Ariège, où les éleveurs de brebis n'en peuvent plus des ours.
Oui, élus et éleveurs ariégeois se sont donné rendez-vous ce matin à 10h30 devant la préfecture de Toulouse, car 2019 est une année record. Jamais l'ours n'avait causé autant de dégâts dans les Pyrénées. 638 ovins tués cette année, c'est 2 fois plus que l'an dernier. Emeline Ferry a rencontré un éleveur dont le troupeau a été décimé fin juin. Ses brebis effrayées par un ours sont tombées d'une falaise.
Cette nuit du 25 au 26 juin, Jean-Pierre Mirouz et ses frères avec qui il travaille ne sont pas prêts de l'oublier.
Quand Jean-Marc, un de mes frères, donc, s'est réveillé le matin aux aurores, il a compris que quelque chose s'était passé parce que il ne voyait plus le troupeau.
En bas de la falaise à Aston, 265 brebis mortes. Elles sont tombées, effrayées par l'ours. Parmi elles, 187 qui appartenaient à Jean-Pierre. Des années de travail perdues pour lui qui a déjà vécu le même drame il y a 14 ans.
Pour fabriquer un troupeau, il faut toute une vie, je vais dire. Il faut compter 10-15 ans quoi, de sélection, habituer les animaux à l'exploitation, habituer les animaux à l'estive. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Alors oui, on nous dit, oui, ben, de toute façon vous êtes indemnisés et tout ça, mais cet argent-là ne remplace jamais les animaux qu'on a connus, qu'on a fait naître, qu'on a soignés.
195 euros par brebis tuée, mais il manque encore une centaine de bêtes introuvables qui, elles, ne seront pas indemnisées.
On est anéanti, impuissant. C'est un crève-cœur, c'est un dégoût, c'est de la colère, c'est de la haine.
Pour lui, les mesures de protection et d'effarouchement ne sont pas efficaces. Il demande le retrait total des ours des Pyrénées. En Ariège, Emeline Ferry pour France Inter.
Allez, pour terminer, connaissez-vous Pierre le Flug Scam?
Ah, pas du tout.
Oui. C'est du suédois. Vous parlez pas suédois.
Non.
Ça veut dire la honte de prendre l'avion. La tendance est encore minoritaire, mais de plus en plus de citoyens de la planète envisagent de ne plus prendre l'avion. Mouvement lancé en Suède l'année dernière, bien sûr, pour lutter contre la pollution. Renoncer à voler, y compris pour partir en vacances, certains jeunes sont prêts à faire le sacrifice, comme cette jeune femme qu'a rencontrée Tuk Nirilanto.
Camille est une étudiante parisienne de 21 ans, de retour d'une année d'études en Finlande. Elle rentre de vacances sans avoir utilisé l'avion.
Pour me rendre en Ardèche, j'ai pris des trains, des bus, du stop. J'ai marché aussi un peu.
Bannir l'avion, une décision pas facile à prendre.
Disons qu'avant, pour moi, c'était vraiment une source de plaisir. Évidemment, on aime tous voyager, on va pas se mentir. Puis après, j'ai commencé à me renseigner et à voir qu'en fait, aujourd'hui, le trafic aérien, on est passé en 30 ans de 1 milliard de passagers à 4 milliards. Je me suis rendu compte qu'un kilomètre en avion, ça polluait 45 fois plus qu'un kilomètre en TGV. À un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités. Ça a été ma dernière prise de conscience, enfin en tout cas la plus récente et la plus difficile, parce que j'adorais partir au bout du monde en sac à dos. Donc aujourd'hui, depuis, je n'ai plus pris l'avion. Sauf exception, je ne compte pas le faire, en tout cas dans les années à venir.
La honte de prendre l'avion, un argument difficilement entendable pour Benoît Simian, député La République En Marche de Gironde, spécialiste des transports.
Beaucoup de nos territoires ne sont pas desservis par des lignes à grande vitesse. Certains hommes d'affaires, par exemple, ont besoin de ce type de transport pour se rendre sur la capitale, pour négocier un marché pour leur entreprise.
Et pour l'instant, Camille et tous ceux qui ont honte de prendre l'avion sont loin d'être majoritaires. L'année dernière, près de 172 millions de passagers ont voyagé au départ de la France.
Voilà, pour la peine Pierre Veil, vous irez à pied jusqu'en Suède.
Absolument, voilà. C'était le journal de Corinne Audouin, mais si je veux écouter par exemple Springsteen sur scène à New York, il faut que je prenne l'avion.
Il y a à la nage
voilà. Ah bon, d'accord.